de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs. Après l'éclipse de lune rouge de cette nuit, on y reviendra tout à l'heure dans notre éphéméride mensuelle Ciel d'Afrique. Mais d'abord, on ouvre tout grand nos oreilles et on s'installe tout ouïe à l'écoute des sons inouïs de la nature, de la terre et de tous les vivants qui la peuplent et se font entendre pour communiquer, séduire et colorer de leur chant notre paysage sonore. Il n'y a pas que les oiseaux, tous les animaux ou presque ont leur mélodie, les insectes leur rythmique, même le sable des dunes a un chant pour qui sait y prêter l'oreille, comme notre invité, l'éco-acousticien Jérôme Sueur, qui va nous faire découvrir, tiens par exemple, comment les cigales taillent, cela joue électro. En rythme en plus, ça déménage. Mon préféré, le plus bouleversant peut-être dans ce recueil des sons de la terre publié par Jérôme Sueur, ce sont ces échanges, cette communication entre bébés phoques de Wedel et leur mère. Oui, oui, ce sont bien des bébés phoques et leur mère. Comment ne pas être troublé, ému et touché? Ah tiens, par le rire du bonobo, ça vous dit? Le rire d'une femelle bonobo à partager sans modération, comme le chant d'une dune de sable. Et oui, saviez-vous qu'une dune pouvait chanter? On aura tout entendu ou presque. À commencer donc par le chant d'une dune de sable. C'est grave, c'est profond, une dune de sable. Et ce n'est qu'un petit aperçu sonore des réjouissances à suivre. Autour de la question, comment partager les sons de la terre et les mélodies du vivant? Bienvenue pour prêter l'oreille à la dimension sonore, souvent négligée de la nature, qui se dévoile jusque dans la toile, ou plutôt dans le tambourinement de l'araignée loup. Nous voilà presque immergés dans le tambourinement de l'araignée loup sur une feuille, enregistré par Marc Namblard. Bonjour Jérôme Sueur.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venu en direct pour partager tous ces sons inouïs, hein, franchement inouïs de la nature et du vivant, sur lesquels vous travaillez. Alors vous êtes éco-acousticien, enseignant-chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, où vous menez des projets de suivi de la biodiversité par l'écoute. Vous travaillez aussi sur les liens entre comportement animal, écologie et acoustique. En gros, qui émet des sons, pour qui, pourquoi, comment sont-ils perçus et qu'est-ce qu'ils démontrent? On y viendra. Car vous nous invitez vraiment à prêter l'oreille à cette dimension sonore trop souvent négligée de la nature à travers un petit ouvrage, un petit bijou, Les Sons de la Terre, paru chez Actes Sud. Ouvrage où nous avons un exemplaire à vous offrir, à vous glisser entre les oreilles, chers amis auditeurs, car il fourmille de QR codes qui renvoient à une centaine, 145 sons naturels, tous plus inouïs les uns que les autres, enregistrés par des bioacousticiens, des chasseurs de sons auprès desquels vous avez couru et collecté pour nous faire partager, Jérôme Sueur, sur RFI tous ces sons, après les avoir partagés dans des chroniques sonores, évidemment, sur France Inter, dans La Tête au Carré. L'idée, la Terre au Carré, l'idée vous est venue, Jérôme Sueur, en plein confinement, quand les habitants des grandes villes sur la Terre ont redécouvert le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans le vent. Vous avez d'ailleurs émis l'hypothèse à ce moment-là que ce n'était pas les oiseaux qui chantaient plus fort, au contraire même, c'était plutôt les autres bruits humains ou mécaniques qui s'étaient tus, c'est ça?
Oui, c'est ce qui s'est en effet passé pendant le confinement. Ben, on s'est calmé, on n'est plus sorti et donc toutes nos machines étaient à l'arrêt. Et du coup, le paysage sonore a complètement changé. Et toutes les basses fréquences de nos transports, de nos travaux se sont arrêtées. Et donc, on a laissé plus d'espace aux animaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en temps normal, en fait, quand il y a du bruit, les oiseaux sont, notamment les oiseaux, mais pas que les oiseaux, sont très contraints par ce bruit. Et ils sont obligés de répéter leur chant pour qu'ils passent à travers le bruit, ou de chanter plus aigu, ou de chanter plus fort. Et là, comme il n'y avait plus le bruit, ils n'étaient plus obligés de faire toutes ces adaptations, en fait. Et donc, l'hypothèse était en fait que ces animaux chantent finalement moins. Et alors qu'on avait l'impression que c'était le contraire, parce que nous, ce qui se passait, c'est qu'on les entendait plus, parce que on avait un petit peu nettoyé le paysage sonore de toutes nos poubelles sonores, c'est acoustiques, ça. Et en plus, on était là. On était disponible à nos fenêtres face à un paysage qui, quelquefois, ne changeait pas beaucoup, un paysage visuel qui ne changeait pas beaucoup, mais un paysage sonore qui était assez dynamique parce que c'était le printemps, il faisait beau. Et donc, il suffisait d'un arbre, hein, pas de beaucoup, pour pouvoir entendre des oiseaux et mieux les entendre et prendre le temps de les entendre.
Voilà, prendre le temps, prêter l'oreille, c'est ce que vous faites en tant qu'éco-acousticien. C'est-à-dire que vous êtes écologue-acousticien, c'est quoi ? C'est par le son ? Par les sons, et ils sont nombreux, on l'a entendu, on va y revenir, que vous mesurez la biodiversité, l'état finalement des lieux de la nature à
oui,
travers les sons.
C'est l'idée de l'éco-acoustique, c'est d'essayer de traiter des questions d'ordre de l'écologie, du suivi de la biodiversité, savoir si les espèces sont présentes, quand est-ce qu'elles sont présentes, dans un endroit, donc simplement en l'écoutant. Ça paraît simple, mais c'est quelquefois un peu compliqué. Mais la technique, c'est simplement, j'allais dire, de mettre des micros dans un endroit. Ça peut être une forêt, une prairie ou sous l'eau, dans la mer ou dans des mares, des étangs. D'enregistrer tout ce qui se passe. On n'est pas sélectif. Et de ces enregistrements où tout est en mêlé, essayer d'en tirer des informations écologiques, donc sur le niveau de biodiversité, sur sa dynamique à la fois spatiale et temporelle, comment cette biodiversité évolue.
Est-ce que vous saviez, en démarrant votre carrière de chercheur d'éco-acousticien, qu'il y a autant, je dirais pas des bruits, hein, autant de sons que ça dans la nature, autant de sons divers, et que finalement, tout ce qui vit émet des sons?
Alors en fait, le son naît dès qu'il y a du mouvement.
Ah, c'est ça.
Donc, et pas, ça peut être un son, on dit incidentel. Enfin, voilà, je vais frotter mes mains là et je vais produire un son parce que je fais du mouvement. Donc finalement, n'importe quel organisme qui bouge va pouvoir produire du son.
Même pas besoin d'être vivant. N'importe quel organisme qui bouge. Enfin, si le vent le fait bouger.
S'il est vivant. Ah oui, mais oui. Alors, c'est pas un organisme. Un organisme est un être vivant.
Bien sûr. Voilà.
Donc, de la roche va pouvoir produire du son via le vent. Le vent va révéler la roche comme il peut révéler les arbres, les feuilles des arbres. Et donc, tout mouvement peut produire du son. Ça ne veut pas dire que ce son est utilisé par les êtres vivants comme un support d'information, de transmission d'information d'un individu à un autre. Et voilà, dès que l'on bouge, on produit du son, des vibrations.
Et puis le son, alors on le sait bien, nous les humains, ça sert à communiquer. Avons-nous chanté avant de parler? Ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, dans la nature, il y a des animaux qui communiquent, qui se parlent entre eux. Oui. Et moi, dans cet ouvrage, ou dans ce recueil de vos chroniques radiophoniques, Le son de la Terre, paru chez Actes Sud, et qui est génial parce qu'on peut lire des histoires formidables et on peut à chaque fois écouter le son correspondant. Parmi tous ces sons, le plus bouleversant, qui, moi en tout cas, m'a bouleversé, qui semblait presque humain, c'est celui qu'on a déjà entendu dans le sommaire. Je vous propose de le réécouter entre une mère et un jeune phoque de Védel, enregistré par Clément Cornec. On l'écoute et vous nous expliquerez ensuite. T'en viens et moi, enfin bon, mais ça c'est moi qui rajoute par-dessus.
On a le droit de faire quelquefois un petit peu d'anthropomorphisme, mais c'est pas si loin que ça. Hein. C'est un dialogue entre une mère et son jeune. En fait, chez de nombreuses espèces de mammifères marins et d'oiseaux marins, notamment les manchots, il y a un dialogue qui s'effectue comme ça entre parents et jeunes, parce qu'ils ont besoin de se retrouver après des départs en mer. Donc, si la mère part en mer et va chercher de la nourriture et qu'elle revient, elle doit retrouver son jeune. Et donc, il ne faut pas qu'elle se trompe de jeune, évidemment.
Donc, il y a un chant spécifique.
Oui, à chaque individu.
À chaque individu.
Et ils se reconnaissent par la voix. Donc là, on l'a entendu pour le phoque de Védel. C'est vrai pour d'autres pinnipèdes, d'autres mammifères marins. Mais c'est très vrai, ça a été démontré en premier pour les manchots royaux, où la voix est le seul élément qui permet la reconnaissance individuelle et donc d'aller vers son petit et pas vers celui du voisin.
C'est fantastique et ça sert aussi évidemment les éthologues, puisque là il s'agit, et vous le traitez dans cet essai, hein, Le son de la Terre, il s'agit de comprendre ou d'approcher les comportements animaux et les comportements à travers le son, le babillage, les chants, la communication.
Comprendre comment des individus arrivent à s'échanger des informations. Ça nous paraît tout naturel de parler passe énormément d'informations maintenant.
Et on n'arrête pas de parler.
Voilà, on n'arrête pas de parler, on n'arrête pas de babiller. Mais les animaux ne parlent pas. Mmh. En tout cas, ils échangent aussi beaucoup d'informations via le son.
Alors, à propos de babillage dans ce registre-là, je propose d'écouter le babillage de chauve-souris enregistré cette fois-ci par Mirjan Knornschild. C'est un petit babillage de chauves-souris.
Oui, dites-nous tout. Les chauves-souris d'Amérique centrale, où les petits, en fait, produisent des sons qui ne sont pas liés au contexte comportemental. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent à produire des sons de chasse, des sons de lien avec leurs congénères, avec leurs parents, mais sans lien avec le moment, en fait.
L'école des chauves-souris, quoi. L'école sonore
voilà.
Des chauves-souris.
Donc, ils babillent comme nous, nos bébés babillent, ils exercent leur voix, mais sans vraiment contexte social. Hein. Quelquefois, c'est avec les parents, mais voilà, ils babillent. Et là, c'est la même chose, c'est assez étonnant. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que chez cette chauve-souris, les parents font du parenté. Alors, qu'est-ce que c'est que le parenté? Le parenté, c'est la manière dont on parle à des jeunes, à nos jeunes, à nos bébés. On force la voix, on va changer le
petit chou, voilà.
Comme on fait aussi avec nos chiens.
C'est vrai.
On fait du parenté, où on parle un peu bébé avec nos chiens. Et il a été démontré récemment par l'université de Saint-Étienne notamment que les chiens sont sensibles à cette intonation et que ça permet de renforcer le lien entre le chiot et ses maîtres.
Et les chauves-souris font pareil. Elles babillent avec leurs petites chauves-souris.
Ouais, elles font du parenté, donc elles changent l'intonation de leur communication, de leur son, et ça renforce le lien social entre les parents et les jeunes.
D'où l'intérêt d'enregistrer tous ces sons pour les éthologues, pour le comportement, pas seulement, on y viendra pour vos travaux en écologie. Un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux demandait, mais avec quoi est-ce qu'on peut enregistrer ces sons? On imagine quand même que les chasseurs de sons, ils passent des heures autour des chauves-souris pour recueillir ces babillages ou le son des bébés.
Alors,
et de leur
mère. Les chauves-souris, c'est très spécifique parce que là, en fait, ce sont des sons ultrasons, c'est-à-dire qu'ils sont en dehors de nos capacités auditives, ils sont très aigus, ils ont été descendus en fréquence pour qu'on puisse les entendre.
Puisque les chauves-souris se problèment par écolocation et donc avec d'autres sons.
Donc là, c'est des sons qui ont été remis dans notre système auditif, enfin dans nos capacités auditives. Mm-hmm. Donc là, il faut du matériel très particulier, souvent assez coûteux. Maintenant, si on veut enregistrer des sons de la nature, on peut acheter des magnétophones qui sont de haute technique, mais on peut aussi tout simplement utiliser son téléphone. Ça ne sert à rien. Voilà, on fait des photos aussi avec nos téléphones. Pourquoi ne pas enregistrer les sons de la nature avec les micros qui sont dans les téléphones? Mais aussi, on peut rajouter des petits micros. Il y a des petits micros qui coûtent quelques euros simplement et on augmente vraiment les capacités de ces téléphones. Et ça peut suffire pour apprendre et pour se sensibiliser, en fait, parce qu'en enregistrant, on se force à écouter.
Bien sûr.
Quand on dit on va écouter quelque chose, tout de suite on commence à penser à autre chose, ou on parle très rapidement quand on est plusieurs, c'est pas possible en fait. On est tellement sociaux et tellement communicants par la parole qu'on n'arrive pas à écouter et se taire. Mais quand on enregistre, là on a plus le choix, on est obligé de se taire et puis d'écouter, d'être attentif et puis après de réécouter. Et puis c'est comme ça qu'on apprend.
Qu'on s'ouvre les oreilles. Est-ce qu'il y a du silence parfois complètement? Est-ce que le silence, qu'est-ce que c'est que le silence pour un écho-acousticien?
Ouais. Alors le silence, c'est pas forcément une absence de son. En tout cas pour un écho-acousticien, le silence c'est plutôt l'absence de bruit d'origine humaine. Alors ça peut paraître un peu misanthrope, mais pour un écho-acousticien, pour quelqu'un qui fait de l'histoire naturelle, du comportement animal, toutes les productions humaines sont gênantes. Elles sont gênantes pour les animaux, elles sont gênantes pour nos études. Et donc, le silence que nous, on recherche, c'est le silence des hommes, comme l'a dit Fernand Desroussen dans un disque. C'est le silence des hommes, ou le silence naturel, où on ne retrouve plus que les sons de la nature.
Et ça ne doit pas être évident, parce que y a toujours un bruit d'avion, il y a toujours quelque chose dans l'air. Oui. Vous avez collecté tous ces sons, on va en entendre encore de nombreux dans le son de la Terre, auprès de véritables chasseurs de sons, oui. D'éco-acousticiens, de bio-acousticiens, oui. Qui passent leur vie, leur jour, leur nuit parfois, oui. Avec des micros sophistiqués à recueillir les sons.
Ce ne sont que des passionnés du son, des passionnés du son nature, des chercheurs en effet, des bio-acousticiens, des éco-acousticiens, mais aussi ce qu'on appelle des audio-naturalistes, comme on fait de la photo-nature, on fait du son-nature, et puis aussi des artistes. Donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on a différentes écoutes, différentes approches qui se croisent, science et art, là, se mélangent.
Et qui inspirent aussi des compositeurs, mais même sans avoir besoin de compositeurs. Écoutons, par exemple, un petit passereau, il n'est pas très grand, le mannequin aux ailes blanches. Et son chant de quoi ? De séduction, je ne sais pas, vous nous le direz, enregistré par Nils Krabbe. Étrange chant tapotis, ouais. Rythme, tempo de séduction du mannequin à ailes blanches.
Ce n'est pas un chant. C'est là que c'est un peu bizarre. Donc c'est un oiseau tropical. Les manakas sont des oiseaux très particuliers qui font des parades nuptiales incroyables. Ils dansent. Vous verrez, si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous verrez des manakins qui font la moonwalk, là, comme Michael Jackson. Ils écartent leurs ailes, c'est incroyable. Et donc celui-là, il fait un truc très très particulier. C'est que le son qu'on entend n'est pas un chant. C'est un frottement de ses ailes qu'il soulève. Il soulève un peu la coupe et puis il frotte ses ailes l'une contre l'autre et ça fait ce son. Ce qui est très très rare chez les oiseaux. On appelle ça de la stridulation. C'est un mécanisme que l'on connaît très bien chez les insectes, mais pas chez les oiseaux. Donc voilà, ce manakin, il fait un peu...
On le réécoute, Hugo ? Ah oui. Ah, il chante pas.
Il ne chante pas, mais ça fait ce son très pur quand même. Ce sont les ailes qui font le son.
Et pour séduire, parce que quand même, hein, que ce soit en chantant ou en se frottant les ailes, la plupart de ces chants, d'oiseaux notamment, sont là pour séduire.
D'oiseaux.
La partenaire en général.
D'oiseaux, d'amphibiens, d'insectes, d'araignées.
Araignées aussi.
Oui, l'araignée qu'on a entendue au début, hein, c'est pareil, l'araignée loup, le mâle tapote son abdomen contre les feuilles sèches de la litière et c'est pour attirer les femelles. C'est très très souvent lié au comportement sexuel.
On réécoute, mon cher Hugo Violas, l'araignée loup. Alors là, c'est l'araignée loup c'est magnifique. Alors, qui c'est... séduit. C'est pas une toile. Elle fait pas de toile.
Non, elle ne fait pas de toile. Elle vit dans la litière, de la litière normalement plutôt humide, mais quand elle va appeler, quand le mâle va appeler les femelles, il se met sur une litière sèche, donc des feuilles mortes sèches, et il tambourine ses feuilles. Ça fait ce son assez extraordinaire. C'est Marc Namblard qui a enregistré ça. Et c'est un document unique.
Encore Marc Namblard, oui. sacré chasseur de sons. Autour de la question pourquoi et comment partager tous ces sons de la nature, on continue de s'interroger en frétillant un peu sur votre choix musical. Lui aussi original et que l'on doit à votre fille, donc on salue mademoiselle Julia Sueur, en écoutant Cosmo Sheldrake sur RFI, avec ce titre qui se passe de commentaire, Wriggle. Frétillé, très sauté, en VO et en musique évidemment.
Did you wriggle or roll? Did you giggle or grumble? Thumb, thumb, from where did you come? Did you toddle or run? Did you skip, chip or stumble? Some pickles on and play the mellotron. Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down and bring along? Count to 21 and go and right a wrong and feed the pelicans.
Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down? Count to 21 and go and right or wrong and feed the pelicans. Cosmo Sheldrake sur RFI Regal. Merci pour ce choix musical frétillant, Jérôme Sieur. On n'en attendait pas moins de l'éco-acousticien que vous êtes, enseignant-chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle, auteur de cet ouvrage qui ravit nos oreilles, mais pas seulement, les sons. Le son de la terre. Vous y tenez à ce à ce singulier.
J'y tiens.
Très joli titre, Le son de la terre aux éditions Actes Sud. Ouvrage dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir avec les QR codes inclus pour écouter tous ces sons. Alors c'est quand même au pluriel, hein, tous plus insensés les uns que les autres, que vous nous faites partager, Jérôme Sueur. Donc depuis le chant des dunes de sable, oui, les dunes de sable chantent. Vous allez le réentendre. Les grenouilles aussi à leur manière et surtout pendant des soirs. Comment dire, orgiaque. Mais avez-vous déjà prêté l'oreille au rire d'un bonobo, ou plus exactement d'une femelle bonobo enregistrée par Zana Clay? C'est parti. Pas vraiment contagieux quand même ce rire de bonobo, mais on imagine la femelle bonobo. Et on se dit que bah, l'humour, c'est quoi? C'est une affaire de référence, hein, finalement, entre espèces. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, déduire? Alors, je sais que c'est pas votre... Vous êtes écologue, mais quand même, on peut déduire un certain nombre de choses de ces sons d'animaux. Ils nous apprennent, par exemple, que les bonobos ont de l'humour, rient et peuvent se moquer les uns des autres.
Mais absolument. Oui. Donc, ça nous ouvre quand même sur le comportement, sur la vie des autres qui ne sont pas nous. Hein. Et c'est extrêmement intéressant, je pense, de juste de dire qu'un bonobo, un chimpanzé, un orang-outan, un gorille peuvent rire. Voilà, ça casse un peu les frontières entre les espèces, ça casse l'anthropocentrisme. Les rats peuvent rire aussi.
Mais oui.
Voilà, si on les chatouille, ils rient. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant d'entendre que ça ne ressemble évidemment pas à un rire humain et que donc souvent on peut se tromper en faisant de l'anthropocentrisme.
Mais
là,
bien
on
sûr.
Dira, il grogne. Voilà. Non, c'est un rire. Le mécanisme n'est pas le même. Hein, et c'est lors de l'inhalation et de l'entrée de sortie d'air. Hein, alors que nous, on rit simplement.
Pour les rats ou pour les
chimpanzés? Pour les bonobos. Pour les bonobos et les chimpanzés. Donc le mécanisme n'est pas exactement le même, ça ne ressemble pas à nos rires, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc peut-être qu'il y a d'autres espèces animales qui rient, on ne le sait pas, parce que c'est une toute autre forme.
Oui, chacun a son monde, évidemment, et dans son monde sonore, les écologues comme vous parlent de paysage sonore, c'est ça?
Alors le paysage sonore, c'est vraiment l'ensemble des sons que l'on pourra percevoir à un endroit donné, dans un temps donné. Et donc ces espèces... participent à ce paysage sonore et perçoivent aussi ce paysage sonore. Parce que souvent, on pense qu'une espèce vit dans son monde sonore et pas dans celui des autres. Mais on s'aperçoit de plus en plus qu'évidemment, ils écoutent ce qu'il y a autour, parce que c'est source d'information aussi pour leur survie. Entendre que la pluie arrive, ça peut être important. Entendre qu'une autre espèce arrive, un prédateur, c'est très important, une proie aussi, évidemment. Donc, il faut être à l'écoute de l'environnement sonore, du paysage sonore.
Pour se faire entendre et pour écouter
et
les
pour
autres
écouter
et
les
pour échanger, pour être dans un... Au fond, c'est vraiment nos oreilles et les oreilles de tous les animaux.
Absolument.
Sont extrêmement utiles.
Oui, elles sont
encore plus dans des forêts, dans les
lieux. Sont très utiles à la survie des individus. Hein. On peut penser, en effet, sur la prédation. Hein, une proie est extrêmement vigilante au son qu'il y a autour, parce que un son, un bruit, hein, peut lui indiquer la présence d'un prédateur et donc déclencher un comportement de fuite ou au contraire d'immobilité pour pas se faire voir et surtout ne pas faire de bruit.
D'où l'importance d'ouvrir ses oreilles et puis pour nous, pour vous, éco-acousticiens, de se mettre à l'écoute de ces écosystèmes avec nos oreilles, hein, c'est vraiment ça. Autour de la question, justement, comment partager tous ces sons de la nature, toutes ces mélodies des animaux et pourquoi ça intéresse tant les écologues. Nouvel éclairage d'une écologue, Tatiana Giraud, titulaire cette année de la chaire Biodiversité et Écosystèmes au Collège de France. On l'écoute.
En écologie, c'est essentiel, hein, parce que, par exemple, les oiseaux chantent, ça a une fonction évolutive et écologique essentielle, par exemple, pour attirer leurs partenaires, pour éloigner les compétiteurs, pour dire « c'est moi le mal de ce territoire, rentre pas ». Mais donc, effectivement, les sons sont très importants en écologie et en évolution. Par exemple, on parle de pollution lumineuse ou pollution sonore, qui peut effectivement perturber la reproduction des espèces, puisque les espèces nocturnes qui sont perturbées par un éclairage continu peuvent ne plus arriver à se reproduire ou perturbés par des bruits qui les empêchent effectivement d'entendre leurs congénères. Donc ça peut perturber les relations écologiques, c'est sûr.
Vous travaillez précisément là-dessus, Jérôme Sieur. Enfin, vous avez des projets de suivi de la biodiversité par l'écoute.
Par l'écoute, on suit plusieurs sites, notamment deux sites forestiers, l'un dans le Haut-Jura avec le parc naturel régional du Haut-Jura, et l'autre en Guyane avec la réserve naturelle des Nourages. Et l'objectif est de suivre ce paysage sonore, donc tous les sons qui sont dans ces forêts sur le long terme. Donc, on enregistre une minute tous les quarts d'heure. On enregistre depuis 2-3 années et on va enregistrer pendant 15 ans.
Et vous allez écouter tous ces sons et quoi
Non,
c'est pas possible.
Et non.
Là, c'est un ordinateur qui va fonctionner pour vous avec des algorithmes.
Oui, tout à fait. Alors, on contrôle ce que fait l'algorithme. Donc, on est obligé d'écouter une petite partie de ces enregistrements pour savoir si la technique fonctionne bien, si on ne se trompe pas. Mais non, évidemment, on ne peut pas hein, parce que c'est des centaines d'heures par an, des centaines de milliers de fichiers audio par an.
Et qu'est-ce que vous cherchez à définir, à remarquer, c'est-à-dire plus il y a de sons, plus ça veut dire qu'il y a une biodiversité, ou plus elle est diverse, justement.
Alors, c'est l'hypothèse de départ, c'est-à-dire qu'on essaie de mesurer la diversité sonore de nos enregistrements, mm-hmm. Qui potentiellement révèle une diversité animale plus forte. Et puis, on essaye de voir notamment les rapports entre les sons humains, donc moi je considère comme du bruit, et les sons animaux, et de voir comment ces deux ensembles vont varier peut-être au cours des années. Donc on arrive à les quantifier de manière automatique. Et par exemple, dans le Haut-Jura, on a démontré que sur une année, 75% de nos enregistrements, il y avait des sons d'avion, des bruits d'avion.
Oui.
Voilà. Donc on a un site qui est remarquable, qui est très protégé, avec beaucoup d'outils d'air naturel pour protéger cet endroit. Mais en fait, au-dessus, il est complètement pollué par le passage des avions. Et donc on a un environnement sonore qui est très pollué. Et ça, c'est un petit peu oublié de toutes les politiques de conservation des espaces naturels.
Oui.
Parce qu'on pense terre à terre, j'allais dire, au sol, et on regarde, et c'est normal, les espèces végétales, animales qui sont présentes. Mais on oublie un peu le son.
Et c'est perturbant, évidemment.
Et c'est perturbant.
Enfin, c'est perturbant pour nous humains déjà, donc c'est évidemment perturbant.
C'est quasiment les mêmes perturbations qu'on observe chez les animaux. Ça, c'est très connu, notamment chez les oiseaux, les bruits, les sons des avions, des routes, perturbent énormément les animaux. Ça les empêche de communiquer, ça les oblige à dépenser plus d'énergie parce qu'il faut répéter, ça les repousse, ça décale leur période de reproduction. Donc c'est vraiment... significatif. C'est un peu la même chose que la pollution lumineuse. On parle beaucoup de pollution lumineuse. La pollution sonore est aussi forte. On parle de bruit, puis souvent on dit « ah oui, il y a du bruit ». Mais c'est une pollution. C'est vraiment, il faut le penser comme ça, c'est-à-dire que quand nous, on prend un avion, quand on prend notre voiture, quand on prend une moto ou un scooter qui fait énormément de bruit, c'est comme si on balançait nos poubelles.
C'est voilà, ça, nos poubelles sonores.
Nos poubelles sonores par la fenêtre, et puis ça gêne personne. Enfin, en tout cas, souvent, on oublie. Hein. C'est un peu toujours la même chose quand on est en voiture, on regarde le pot d'échappement de celui qui est devant et pas le nôtre. C'est un peu la même chose, là. On oublie qu'on fait du bruit, mais on gêne les animaux, on gêne les écosystèmes, et évidemment, on gêne les humains. Hein. On sait maintenant que la pollution sonore, c'est le deuxième facteur de pollution sur la santé humaine après la pollution de l'air. Hein.
D'où l'importance hein, d'y prêter attention, de s'en rendre compte, d'en être conscient. Vous parliez donc parmi les forêts que vous étudiez, des forêts tropicales de Guyane.
Ouais.
Et moi, je pense, alors pour le coup, elles font du bruit, hein, aux grenouilles, au cœur de grenouilles, enregistrées par Thomas Tilly en Guyane, pendant leurs ébats, leurs orgies, leurs partout, je ne sais pas comment il faut dire ça. Allez, on les écoute, les grenouilles. C'est insensé quand même le niveau sonore.
C'est vrai que ça ressemble un peu à du bruit, il faut être honnête.
Pour nous, en tout
voilà,
cas.
Voilà, il faut être honnête. Alors moi, je n'ai jamais été sur place. On a enregistré avec des magnétophones automatiquement. Mais il paraît que c'est très difficilement supportable. Il faut mettre des boucliers, enfin des bouchons dans les oreilles, parce qu'en effet, on a plus de 100 décibels.
Plus de 100 décibels pour la reproduction. Elles sont en train de se reproduire.
Elles sont toutes
là.
Alors ce qui se passe, c'est que c'est des milliers d'individus qui se retrouvent dans le même endroit, dans une mare, à un instant donné. Ça dure 24 heures, 2-3 jours. pas plus. Donc tout le monde se retrouve là, plusieurs espèces, et ils chantent tous en même temps. Donc ça produit cet embouteillage sonore.
Embouteillage sonore. Allez, dans le genre aussi sacré décibel, on en a eu un petit extrait dans le sommaire tout à l'heure. Ce sont les fameuses cigales taille, que moi j'appelle les cigales électro enregistrées par Michel Boulard. Ah ouais, moi c'est là que je préfère, là. C'est, ça y est, on est presque prêt. Ah mais exactement, comment font-elles ces cigales thaïs, hein, donc de Thaïlande, pour faire tant de sons, de musique, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est pas du bruit là.
Chacun voit ce qu'il veut, il y en a qui considèrent ça comme du bruit, c'est vrai que quelquefois c'est un peu intense, ça peut être un peu dérangeant. Alors, les cigales ont un appareil bien particulier qui s'appelle les cymbales, qui est à la base de l'abdomen. C'est comme un petit ballon de rugby avec des baguettes dessus, et il y a des gros muscles à l'intérieur qui tirent sur ces ballons de rugby, et les baguettes se déforme et ça fait un petit clic à chaque fois. Mais là, on entend des modulations de fréquence, du rythme, etc. Alors, c'est dû à l'action des muscles, mais aussi à l'abdomen qui est évidé. C'est-à-dire que tout l'appareil digestif est collé contre le plafond, j'allais dire, de l'abdomen. Et donc, ça fait comme une caisse de résonance. Mmh. Et une caisse de résonance, si on change la taille de la caisse de résonance, on change la fréquence. Et donc là, ces cigales, en fait, elles tendent, elles contractent leur abdomen, et ça fait ces modulations de fréquence, ces rythmes un peu fous, quoi.
Que Hugo nous a remis dans les oreilles. Merci Hugo Violas, notre réalisateur DJ de cigales thaï. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Alors, on l'a bien compris, les animaux font de la musique, mais il n'y a pas que les animaux. La nature, le son de la terre, hein, pour reprendre l'idée de votre ouvrage, peut faire, je ne sais pas si c'est de la musique, mais revenons sur cet exemple frappant, magnifique, du chercheur éco-acousticien Stéphane Douady, qui enregistre le chant des dunes de sable. Impressionnant tout de même.
C'est incroyable. Hein. Ouais. Oui, c'est Stéphane Douady, donc, qui est en fait physicien.
C'est un
physicien. Et qui a enregistré ses chants de dunes dans différents endroits dans le monde et qui a pu l'expliquer. Et c'était un phénomène qui était connu depuis très longtemps, hein, depuis le 16e siècle, mais que personne n'expliquait. Et en fait, c'est des petites avalanches qui sont provoquées sur les pentes des dunes, et les grains de sable, en fait, un peu comme dans un roulé-boulé, se tombent les uns sur les autres, et à chaque fois ils s'entrechoquent et font un petit son, sauf qu'il y a une forme de synchronisation de tous ces petits chocs, naît un grand son très très intense aussi.
C'est
hein,
ça, un son profond,
profond, grave, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors on peut là, ce sont des sons qui viennent de loin, mais parfois, moi ça m'est arrivé sur une plage, si on pose bien le pied comme il faut, bon, sur le bon sable, on arrive à créer un peu de son. Alors pas aussi grand et enveloppant, mais le frottement des grains de sable permet de produire du son.
Bon, bah, exercice cet été, sur la plage, ou avis à nos auditeurs, auditrices qui sont déjà près du sable, s'ils peuvent faire du son. À propos de son de la nature, écoutons, cette fois-ci c'est Marc Namblard, non, écoutons ce qui peut se passer sous un lac gelé quand il s'est enregistré avec des micros spécifiques par Marc Namblard. Lac gelé. Ça se calme. Et voilà, ça fait sursauter. Qu'est-ce qui se passe sous un lac gelé ?
Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est des lacs gelés. Je pense que là, c'est dans les Vosges, où habite Marc Namblard. Et la couche de glace, en fait, sur le lac se fracture par endroit. Et cette fracture produit une impulsion sonore qui va se propager dans la couche de glace. Et comme c'est un solide, les fréquences vont se propager de manière différente. C'est-à-dire que les fréquences aiguës vont aller plus vite que les fréquences graves. Et ça produit ces sortes de modulations de fréquences.
C'est pour ça qu'on entend ça. Comme ça d'un seul coup.
Alors, il y a un grand claque, et puis après, il y a des modulations de fréquences, il y a des rebonds aussi, parce que comme on est dans du solide, il y a des phénomènes un peu d'écho, on va dire. Et donc, ça produit ces sons qui... Enfin, moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'est vraiment incroyable. C'est sublime.
C'est incroyable. C'est
sublime.
C'est très, très beau.
Ça paraît surnaturel, alors que
absolument.
Pas du tout.
Alors, vous avez aussi enregistré des choses un peu étranges, comme la concentration de CO2 dans l'atmosphère.
Je sais pas, c'est enregistré.
Vous, Jérôme Sieur. Oui.
On triché.
Écoute, vous avez triché. Alors, on écoute et vous allez nous expliquer comment et sur quoi vous avez triché. Et ben voilà, ce que vous avez enregistré, ouais. Jérôme Sieur.
Non, j'ai récupéré des données de concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis 50 ou 60 jusqu'à 2020. Et je les ai transformées en son.
Ah, c'est ça. Donc voilà. Là encore, il y a une transformation d'onde pour que ce soit audible.
Là, c'est complètement artificiel. C'est-à-dire que au départ, c'est pas un son. C'est vraiment une donnée.
Une onde.
Oui, c'est une onde. C'est un graphique comme on pourrait le faire. J'avais pensé le faire avec les courbes du Covid. On pourrait très bien le faire avec les courbes du Covid.
Faire un son.
On fait un son. On peut le transformer en onde sonore. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et on entend en fait l'augmentation de CO2. Parce qu'il y a une augmentation de fréquence. Et puis, il y a un petit battement fréquentiel qui correspond aux variations annuelles qui sont liées aux saisons, en fait, entre hiver et été. La variation
donc,
de
c'est trafiqué,
c'est de la création.
C'est ça.
Ça s'appelle de la sonification.
C'est de la sonification. Voilà. Merci de nous le préciser, Jérôme Sieur, autour de la question comment décrypter les sons de la nature, même ceux qui ne s'entendent pas, hein, puisque j'ai bien compris qu'on peut aussi écouter ceux qui ne s'entendent pas, et même ceux qui sont sous l'eau. Alors, on n'a pas parlé des grands mammifères marins, il y a évidemment les baleines. Mais je vais laisser la parole à un connaisseur, à un océanographe plongeur, qui parle presque le cachalot. C'est François Sarano, l'ami, le grand ami des cachalots, des baleines et même des requins, à qui j'ai demandé de nous faire écouter le monde sonore des cachalots. Donc c'est François Sarano, ici même, devant ce micro et en direct.
Mais les cachalots miaulent. Voilà le monde sonore des cachalots. Et ce monde sonore qui est fait de cliquetis et qui paraît au départ très très sobre, eh bien en définitive est assez riche parce que l'agencement de ces cliquetis, les espaces entre les différents cliquetis, construisent des expressions sonores qu'ils utilisent pour visiblement communiquer de façon extrêmement riche puisque leur société est très complexe. Et à société complexe, communication complexe.
Partager les clics, non, la vie de François Sarano, qui est
bon.
Quand même... il est bon en clic, c'est incroyable. Et vous saviez-vous que les cachalots miaulaient?
Oui, alors les cachalots sont bien étudiés par l'Université de Toulon, Hervé Glotin, en Méditerranée, où justement l'idée... On peut essayer de comprendre leur comportement, mais aussi de suivre les populations de cachalots simplement en les écoutant avec des hydrophones placés, savoir où sont les cachalots, éventuellement combien ils sont, suivre l'état de leur population, ce qui est très important pour ces animaux qui sont emblématiques.
Oui. Et dans ce cas-là, c'est pas invasif du tout, puisque finalement, ils prennent une photo, on prend le son.
C'est bien l'intérêt de l'écho-acoustique, c'est qu'on ne touche à rien. Donc on met un micro, on met un hydrophone, et souvent même on s'en va. Donc, il n'y a plus aucune perturbation. Enfin, il peut y avoir d'autres perturbations, mais en tout cas, ce n'est pas de notre fait. Et là, par exemple, on enregistre en Guyane pour le moment, on enregistre dans le Haut-Jura, on n'est pas là. Les magnétophones sont là pour nous, et donc on ne perturbe pas.
Ça fait partie de la philosophie, d'un écologue en général et d'un
éco-acousticien. Je crois que ça fait quand même une petite différence avec la bioacoustique, où en bioacoustique, ce qui est hyper intéressant et qui est aussi très excitant. On va au plus près de l'animal pour l'enregistrer au mieux. Et puis, on expérimente avec lui, on lui pose des questions, ce qui est absolument génial. Mais c'est vrai que potentiellement, on peut perturber. Alors que nous, on se retire. Alors, on perd un petit peu, on prend un peu de distance, on voit moins ce qui se passe. Mais après, on écoute.
Ça vous a changé, ça vous fait changer le fait d'être éco-acousticien, de prêter l'oreille, d'écouter, peut-être de vous taire un peu plus parfois que nous, je ne sais pas.
Oui, mais c'est évident que lorsque je me balade, ou que ce soit, j'essaye de ne pas faire de bruit. Donc, c'est essayer d'être discret, de ne plus bouger, en fait. On en vient à là. C'est quasiment obligatoire, c'est-à-dire de choisir un bon endroit. De s'asseoir, de se cacher un peu, et puis juste d'écouter. Donc, on fait aussi de la science en même temps, mais il y a aussi une partie sensible dans ce travail, d'écouter juste pour le plaisir. et de prendre ce qui arrive, soit avec une écoute scientifique en se disant voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quel est ce son, quelle est cette espèce, ou alors une écoute sensible, voire musicale, juste pour le plaisir.
Ça, ça fait voyager, hein, ça libère d'autres parties dans le cerveau, le tout, son.
Oui, oui, absolument. Et on peut voyager sans y être. Les enregistrements qui sont dans ce livre et qui sont ailleurs... On peut voyager sans y avoir été. Voilà, les araignées loups, je ne les ai jamais vues, mais ce n'est pas grave. Les phoques de Weddell non plus. Les cachalots, je n'ai jamais plongé avec les cachalots, mais c'est quand même très excitant.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu des lémuriens. Je sais qu'en tout cas, eh ben voilà. On a beaucoup d'auditeurs à Madagascar qui donc ont déjà vu des lémuriens, mais même sans être à Madagascar. Je propose, juste pour le plaisir, justement, allez, un petit dernier, d'écouter les lémuriens de Madagascar enregistrés par Fernand de Roussen. Il suffit juste de les imaginer avec leurs grands yeux, là, sur leurs pattes de devant, et on craque. Qu'est-ce qu'ils se disent, les lémuriens ? Vous les écoutez avec attention,
bah, Jérôme Sœur. C'est tellement surréaliste. Mm-hmm. La première fois que j'ai entendu ça, que Fernand de Roussen m'a fait écouter ça, j'ai dit, ah bon, c'est un lémurien ? Non, enfin, c'est une sirène d'alarme, je ne sais pas. C'est complètement dingue. Hein, c'est complètement. Fou. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent ? Alors, souvent, ils crient, enfin, ils vocalisent comme ça en groupe. Ça signe le groupe, ça permet la cohésion entre les individus d'un groupe, et puis ça permet aussi de délimiter les territoires entre les groupes au sein de la forêt. Ça ressemble un petit peu dans la fonction au hurlement des loups. Hein, ils hurlent en meute, ça permet de renforcer la cohésion entre les individus, ça permet aussi de marquer un territoire d'un groupe. Là, c'est la même chose.
Très important. Il y a évidemment des loups qui hurlent dans cet ouvrage. Ouais. Le son de la terre, il y a beaucoup d'autres animaux dont on n'a pas pu passer les sons. Il y a même des poissons, enfin, je veux dire, bien même sûr, sous l'eau, c'est pas du tout le monde du silence. Ouais, non, sous l'eau, ça...
Des poissons, il y a du des son. Crabes, des crevettes, des langoustes, des homards. Il y a énormément d'animaux qui font des sons.
Qu'est-ce que vous aimeriez nous faire passer ? Alors, au-delà de vos recherches, on l'a bien compris, sur des années, hein, sur le paysage sonore, les écosystèmes et leurs variations dans les forêts, dans le Jura, en Guyane ou ailleurs. Qu'est-ce que vous aimeriez nous faire passer à nous, aux auditeurs qui nous écoutent sur RFI ? Alors, beaucoup sont au sud, parmi d'autres paysages
d'autres
sonores.
Sonores de très belles
et d'autres
sonores.
Ambiances dans les villes où il y a aussi peut-être plus de bruit, plus de... Voilà.
Qui peuvent être aussi intéressantes.
Et oui.
Un paysage sonore urbain peut être très intéressant si on commence à le décomposer, à l'écouter, à y prêter attention. C'est la même chose, on peut s'asseoir sur un banc, fermer les yeux et écouter. Et c'est un exercice qui est vraiment intéressant et différent, c'est-à-dire que vous entrez dans un autre monde.
Merci infiniment Jérôme Sœur, mais vous restez avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le son de la terre, aux éditions Actes Sud, avec tous les QR codes, 145 QR codes exactement, qui renvoient aux sons les plus divers et variés, les plus inouïs aussi, de la nature, de la terre et des vivants qui l'habitent. Ouvrage dont, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, nous avons un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Autour de la question comment partager les sons de la nature, vous restez avec nous, Jérôme Sœur, car l'heure est venue d'observer les étoiles de printemps sous le ciel d'Afrique. C'est le planétologue Sylvain Boulet, professeur au laboratoire de géosciences d'Orsay, qui nous fait partager, comme chaque mois, son éphéméride, les planètes observables jusqu'au 15 juin prochain. Un éphéméride à retrouver sur la chaîne YouTube de RFI, suivi assidûment sur tout le continent par nos lauréats et lauréates de lunettes astronomiques, que l'on salue astronomiquement.
Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain Boulet, ce matin, il y avait un très joli événement à regarder.
Oui, Caroline, il y avait une belle éclipse totale de lune. Elle n'était pas simple à observer car elle était observable très bas sur l'horizon ouest au moment du coucher de la lune, hein, juste avant le lever du soleil. J'espère que vous avez été nombreux à l'observer. Alors pour rappel, hein, une éclipse totale de lune a lieu lorsque le soleil, la Terre et la lune sont parfaitement alignés et la lune rentre alors dans le cône d'ombre de la Terre et comme la Terre a une atmosphère, la lumière du soleil est filtrée et seul le rouge arrive à éclairer le cône d'ombre. La lune éclipsée prend alors une belle couleur rouge cuivrée. Alors si vous avez pu la photographier ce matin, on attend vos images. Et si vous l'avez ratée, bah, il va falloir être patient car la prochaine éclipse totale de lune sera en 2025.
Mais du côté des planètes, Sylvain Boulet, que se passe-t-il entre le 15 mai et le 15 juin ?
Alors le ballet des planètes continue en deuxième partie de nuit au-dessus de l'horizon est. Le ciel vous propose un joli programme avec un joli rapprochement entre la Lune et Saturne le 22 mai, un joli triangle constitué de Mars, Jupiter et la Lune le 25 mai, un rapprochement très serré entre Vénus et la Lune le 27 mai, et enfin un autre rapprochement très serré entre Mars et Jupiter le 29 mai. Alors n'hésitez pas à essayer de prendre des photos de tous ces rapprochements. Aujourd'hui, les smartphones vous permettent de prendre de telles photos. Le mieux est naturellement d'utiliser un petit trépied pour stabiliser l'image. Et surtout, n'oubliez pas de faire la mise au point pour que les planètes soient le plus ponctuelles possible sur vos images.
Merci pour tous ces conseils. Sylvain, quelle constellation nous invitez-vous à découvrir d'ici au 15 juin prochain ?
Eh bien, une belle constellation, certainement la reine de l'hémisphère sud. J'invite nos auditeurs à découvrir la constellation du Centaure, qui est un peu difficile à voir sur l'horizon pour les pays du nord de l'Afrique, mais qui devient très facile à détecter pour les observateurs de l'hémisphère sud et proche de l'équateur. Le Centaure, c'est l'une des plus vastes constellations, et on est censé y voir une créature mi-homme, mi-cheval. Alors, dans l'absolu, sa forme n'est pas facile à tracer, et je vous invite déjà à détecter les étoiles Alpha et Beta du Centaure, deux étoiles très brillante, non loin de la Croix du Sud. Alors pour info, Alpha du Centaure, c'est le système stellaire le plus proche de nous, situé à 4 années-lumière, soit 40 000 milliards de kilomètres. Alors si vous avez une paire de jumelles, non loin de ces deux étoiles, vous pourrez également observer le plus gros amas globulaire observable, Oméga du Centaure.
Alpha, Beta, Oméga du Centaure, merci Sylvain. On se donne rendez-vous le mois prochain sous le ciel d'Afrique.
Oui Caroline, je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est toujours mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Pour participer, c'est très simple, envoyez sur notre page Facebook L'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Et le gagnant sera annoncé au mois de juillet.
Le 13 juillet, très exactement.
Oui, bonnes observations, bon su à tous. Et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
Merci Sylvain. Il suffit de lever les yeux vers les étoiles et de garder les pieds sur terre à l'écoute du son de la Terre. Les deux devraient bien aller ensemble,
oui,
je pense.
C'est
sûr.
Beaucoup de parallèles, c'est de l'observation. Voilà.
L'observation avec les yeux
courant.
Ou avec les oreilles.
Oui.
Et dans les deux cas, un plaisir, une quête aussi à préserver de toutes les pollutions lumineuses ou sonores finalement.
Et voilà, tout converge.
Alors, un moment peut-être à partager donc sous les étoiles à l'écoute du ciel d'Afrique. Et non. Ah oui, à l'écoute de Ciel d'Afrique et à l'écoute du son de la Terre. Hein. Je rappelle, voilà. C'est le titre de votre ouvrage. Merci beaucoup, Jérôme Sior, de nous avoir glissé tous les sons de la Terre, ceux que vous avez enregistrés, ceux de tous les chasseurs de sons dans les oreilles. Je rappelle que le son de la Terre est paru chez Actes Sud. Et vous revenez quand vous voulez nous faire partager d'autres sons, tous plus inouïs les uns que les autres, et les sons de vos forêts, du Jura et de Guyane.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Caroline.
À bientôt. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, sur les traces des super pouvoirs, des fourmis. Eh oui, des fourmis. Une force herculéenne, une mémoire incroyable, un sens de l'orientation à nul autre pareil, un don pour la stratégie et la structuration sociale, une formidable intelligence collective, mais aussi individuelle. Autour de la question pourquoi les fourmis sont de super héroïnes, vous le découvrirez demain avec Hugo Violas à la réalisation. Merci Hugo pour tous les sons de la Terre. Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert et les oreilles grandes ouvertes à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.